Ile-de-France. Vous écoutez IDFM, la plus francilienne des radios, sur le 98FM.
Grand bonjour à vous toutes et à vous tous, en cette fin d'été agitée et mouvementée, que ce soit le climat, les relations entre les terriens, on va dire ça comme ça, de tous bords, et cette rentrée qui est bien amorcée déjà. Voilà. Donc, j'espère malgré tout que nous nous retrouvons un peu reposés, énergiques et surtout toujours curieux de ce que nous réserve la vie. Aujourd'hui, à la technique Francky, que je remercie d'avance pour cette heure passée en notre compagnie, nous sommes bien ensemble sur IDFM 98 pendant cette heure entre chien et loup, devant mille et un chemins ouverts, que nous emprunterons en deuxième partie en compagnie de Solveig Pijarias. Bonjour Solveig, qui est déjà là parmi nous.
Bonjour.
Et qui nous emmènera, alors pas très loin d'Anguin, à Montmorency, à deux pas donc d'ici, dans un joli petit musée qui propose une exposition permanente et qui accueille des expositions temporaires. Donc c'est de ça que nous parlerons tout à l'heure en deuxième partie d'émission. Mais pour l'instant, je vous emmène avec Francesca Marocchino. Bonjour Francesca.
Bonjour.
Alors Francesca, vous entendez son accent, elle vient d'un petit peu plus loin que Montmorency, on va dire. Et elle va nous parler d'une exposition qui se situe dans l'Institut culturel italien de Paris et qui se termine bientôt. Donc je suis très contente que Francesca Marocchino ait pu venir jusqu'à nous pour nous parler d'une région, alors là je l'avoue, que les Français ne connaissent pas beaucoup. Donc ça va vous permettre déjà pour la plupart de découvrir cette région et puis pour tous d'aller jusqu'à ce musée pour voir cette belle exposition. Voilà, donc Francesca, nous commençons par vous. Alors, je rappelle, je vous présente d'abord à nos auditeurs. Donc, c'est un parcours, hein, Francesca. Vous avez un master et doctorat en histoire de l'art du Japon.
Tout à fait.
Et bien, hein, et on entend à votre accent, et c'est ce que je vais dire d'ailleurs, que vous n'êtes quand même pas japonaise.
Non.
Voilà. Alors, j'ai noté muséologie, scénographie surtout, et méthode d'exposition. Voilà, donc ce qui vous donnait évidemment de quoi, les qualités on va dire, pour cette belle exposition que j'ai vue moi il y a quelque temps déjà. Vous parlez 5 langues, là j'avoue que je suis admirative, et vous avez 2 langues natales, ça ce qui est quand même merveilleux, le français et l'italien. D'où ce joli accent italien que tout le monde aime beaucoup, qui est chaleureux. Voilà. Et puis les 3 autres, eh bien c'est le japonais, l'anglais et l'espagnol.
Oui.
Et alors j'avoue moi que je suis admirative parce que je suis allée un tout petit peu au Japon et je sais que les enfants japonais mettent 15 ans pour apprendre le japonais. C'est pas comme nos petits français qui au bout du CP lisent et écrivent à peu près couramment.
Oui, c'est un peu plus complexe. C'est un système complètement différent. Je ne sais pas si on peut faire des comparaisons. Évidemment, les enfants apprennent à différents niveaux oui. au cours de leurs études. Et c'est évident que ce n'est pas une langue alphabétique. Donc, il y a des caractères, des kanji à apprendre. Ça prend du temps. Oui. Et surtout, il y a des niveaux de langage différents.
C'est ça. Et alors, vous, combien de temps avez-vous mis pour parler le japonais, puisqu'il est fluent, j'imagine?
Et j'ai mis pas mal de temps pour parler le japonais, mais là, toujours, il s'agit de, au début, vous parlez, vous pouvez faire de la conversation. J'avais déjà étudié le japonais à l'université
oui.
pour faire mes études de langue et civilisation orientale. Mmh. Et ça m'a pris au moins 3 ans de arriver à pouvoir lire un livre, à pouvoir pouvoir aussi
communiquer
communiquer oui à partir du début, mais surtout être en mesure de suivre bien les cours d'histoire de l'art
oui.
et tout le parcours.
Oh là là, écoutez, mais bravo. Franchement, je vous félicite.
Alors, j'ai une bourse au gouvernement japonais qui m'a aidée à, parce oui. qu'on est dans un milieu quand même très très spécifique et très soignée. Voilà. Ça aussi, c'était très important pour moi.
Oui. Vous étiez dans quelle ville au Japon ?
À Tokyo.
À Tokyo, carrément. D'accord. Oui. Bien. Alors, au Japon, donc, à part ces études, qu'est-ce que vous avez fait ? Et ma question est très précise. En quoi cette incursion dans l'art très originale de nos lointains voisins japonais, en quoi est-ce que cette incursion vous a aidé dans votre carrière et dans tout ce que vous avez fait de votre vie jusqu'à présent ?
Oui, c'est une excellente question parce que là, effectivement, c'est vraiment une question de démarche, d'orientation. C'est-à-dire que les Japonais ont tout d'abord tendance à aller au-delà de la surface. Ils ont aussi une manière de concevoir un parcours d'exposition avec une scénographie généralement épurée et une scénographie qui a tendance à être vraiment efficace pour ce que j'ai vu. Et on utilise beaucoup la lumière, ce qu'on n'a pas pu faire à l'Institut culturel italien cette fois-ci. Mais dans la scénographie, effectivement, on sculpte avec la lumière. Et on tient bien compte aussi des espaces vides, de laisser parler l'espace autour des œuvres. Et là, je peux dire que le Japon, avec tout ce que j'ai appris en scénographie, mais surtout en histoire de l'art, le caractère de leur œuvre, la manière dont, dans l'histoire, ils ont pu traduire aussi une influence chinoise dans leur art, ça m'a toujours vraiment frappé. C'est resté gravé dans ma mémoire. L'élégance, c'est une leçon d'élégance.
Oui, j'allais vous parler d'esthétique, mais l'élégance, c'est un terme qui est mieux choisi, c'est vrai.
Dans tous les sens du terme.
Oui, tout à fait.
C'est ça que j'aime porter, en fait.
Très bien. Alors, autre question qui va quand même maintenant concerner l'exposition à laquelle vous vous êtes consacré. Pourquoi une exposition à Paris, sur une région italienne peu connue des Français, je le disais, et cette exposition, enfin, j'en donne le titre, c'est Apulia, mystère des Pouilles entre terre, pierre et mère. Et je rappelle à tous les auditeurs et auditrices que c'est une exposition qu'ils peuvent aller voir jusqu'au 28 septembre, ce qui, voilà, ça laisse plus beaucoup de temps. Mais quand même, on va voir, vous avez quelques week-ends encore pour aller visiter cette exposition. Alors, pourquoi cette exposition à Paris, une exposition sur les Pouilles ? Et j'avoue que je préfère le terme italien de Apulia. C'est plus joli, je trouve.
Ah oui, tout à fait.
C'est vrai.
Tout à fait. Oui, en fait, il y a une raison très forte pour ça. Et ça vient d'un parcours. À savoir que, en fait, je me suis aperçue que depuis la publication du Soleil de Scorta de Laurent Godet, les Français commençaient à connaître de plus en plus la région des Pouilles. Et par contre, leur connaissance et l'idée qu'ils sont en train de se faire, ils étaient en train de se faire, était une idée encore superficielle, comme destination des vacances, comme un lieu avec des jolies plages et des villages blancs. Et il y a beaucoup plus, parce que les Pouilles, ne serait-ce que pour sa position, géographique.
On va en parler, parce que les Français ne sont pas très bons en géographie.
Alors,
et les Pouilles, alors dites-nous, justement, où se situent les Pouilles dans l'Italie?
Bah oui, c'est très simple, c'est le talon de la botte italienne, pointé donc vraiment dans la Méditerranée, entre la mer Ionienne et l'Adriatique. Donc vraiment, nous avons une position qui nous projette aussi bien vers les Balkans, vers le Maghreb, vers la Méditerranée au sens plus large.
Oui.
Et ça, effectivement, l'histoire nous transfère cette richesse.
Exactement, c'est vraiment, comme vous le dites, un carrefour et du coup, une zone d'influence énorme.
Oui, alors, terre de frontières.
Voilà, exactement.
Où, tout le monde, tous sont rentrés. Beaucoup de peuples, beaucoup de cultures.
Et donc un enrichissement, évidemment, pour cette terre des Pouilles. Alors, donc on situe bien la botte de l'Italie, tout le monde se représente très facilement. Le fil directeur de cette exposition, je le rappelle, à l'Institut culturel italien de Paris, qui est 50 rue de Varennes, donc c'est La pierre sous plusieurs formes. Mais d'abord, vous venez de nous situer la région des Pouilles. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques noms de villes qui soient évocateurs? Juste les noms des villes et puis on reviendra après à ce que vous en avez fait dans votre exposition.
Toute une série de noms et de toponymes que vous retrouverez. Vous retrouverez Fasano, vous retrouverez Barry, par exemple.
Barry, qui est quand même...
Vous retrouverez Trani aussi. C'est des lieux qui sont connus pour leur cathédrale, mais pas que, et pour le centre historique. C'est vraiment une série de villes sur la côte et à l'intérieur aussi qui ont un caractère très particulier. Et le fil directeur de la pierre nous permet de voir ce travail de la pierre qui vient de loin.
Oui.
Ce qui est un des éléments les plus importants pour moi dans cette exposition, c'était récupérer le patrimoine rural.
Voilà, et on va venir évidemment à l'exposition vue de l'intérieur. Hein, vous allez nous guider à travers cette exposition. Pourquoi le mot mystère dans le titre de l'exposition ? Apulia, mystère des Pouilles. Pourquoi est-ce que c'est si mystérieux ?
Oui, parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'éléments qui n'ont pas vraiment une explication certaine, qui actuellement continuent à être objet de recherche. Il y a aussi beaucoup de légendes, beaucoup de flou parfois dans l'histoire. Et on a voulu reparler de haut Moyen-Âge, et ça évoque toute une série de mystères, et une époque aussi dans laquelle la religion, les superstitions, la culture populaire étaient quelque part
liées,
faisaient partie, elle était très, très interconnectée. Donc, il y a beaucoup d'éléments mystérieux et qui font partie de cette force et de cet ADN de la région.
Et ça, c'est attirant, évidemment. Quand on voit Apulia, mystère des Pouilles, on a envie d'y aller. L'exposition se présente en trois parties, donc nous allons y revenir après avoir écouté, merci Francky, une chanson que tout le monde reconnaîtra et puis que tout le monde va fredonner en même temps. Vous, les auditeurs et puis un petit peu tout le monde, tous ceux qui écoutent.
Appena alzata, oh bella ciao, bella ciao, ciao, ciao alla mattina. Appena alzata, in risaia mi tocca andare. Fra gli insetti e le zanzare, oh bella ciao, bella ciao, 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 e fra gli insetti e le zanzare, un duro lavoro mi tocca fare. Mamma mia, oh che tormento, oh bella ciao, bella ciao, 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 oh mamma mia. Oh che tormento, io ti invoco ogni domani.
Bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire, e se muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire,
Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire la su montagna sotto l'ombra di un bel fiore.
E le genti... Tout le monde a reconnu Bella Ciao, d'abord chantée par ces femmes qui travaillent dans les champs, comme nous expliquait Francesca, hein, merci beaucoup. Et puis ensuite, bien sûr, reprise en tant que chant révolutionnaire. C'est magnifique cette chanson, vraiment.
Absolument, absolument.
Bella Ciao, bonjour beauté, bon, on va dire ça comme ça. Alors, on revient à notre exposition Apulia, mystère des Pouilles, entre terre, pierre et mer. Cette exposition donc se présente en trois parties, Francesca. Donc, il y a une section archéologique qui va du 4e au 3e siècle avant Jésus-Christ. On va la situer comme ça, hein. Alors, j'aimerais que vous nous parliez de cette partie, justement, qui fait partie aussi, d'ailleurs, du mystère découvert dans les Pouilles.
Absolument. En fait, cette partie est le point de départ de l'exposition, parce que c'est un moment d'opulence et de gloire dans la culture des Pouilles, dans le sens où on parle de Magna Graecia, c'était effectivement, les Pouilles étaient devenues une colonie grecque depuis un moment, et de cet dialogue entre le monde grec et l'Italie du Sud, et en particulier les Pouilles, avec Tarente qui a une position de prééminence dans cette Magna Graecia comme centre de production céramique, nous avons une variété de production qui est juste extraordinaire. J'ai choisi intentionnellement de sélectionner une période relativement courte, qui est le 4e, 3e siècle, pour donner l'idée de comment, de quelle variété de production il y a dans cette période. Nous avons aussi bien les vases.
Justement, on va essayer d'être un tout petit peu précise et puis en même temps rapide, parce qu'il faut,
oui,
il faut aller quand même avec vous jusqu'au bout de l'exposition. Donc il y a, moi j'ai remarqué des amphores absolument magnifiques et une décoration, alors effectivement grecque, avec des reprises de mythes grecs. Est-ce que vous pouvez nous en citer un?
Il y a plusieurs éléments de mythologie, mais surtout ce qui reste gravé dans la mémoire, à mon avis, des visiteurs, c'est Antigone.
Oui.
L'histoire d'Antigone, qui vient de la tragédie, présente une version d'Antigone qui n'est pas celle de Sophocle. Mmh. C'est une version dans laquelle il y a Héraclès au centre de la scène, qui est pris de compassion pour le couple d'Antigone et Hémon. Et ce personnage d'Héraclès n'apparaît pas du tout dans la tragédie de Sophocle. Et donc, c'était une idée l'idée c'était de mettre au centre la divinité pour montrer qu'il y avait un côté de compassion et un côté aussi de force. Parce que dans le registre en bas, on voit Héraclès en pleine force qui se bat contre, il y a une lutte avec les Amazones.
Oui. Oui, oui. Donc c'est extrêmement symbolique.
Tout à fait, tout à fait.
Ensuite, moi, je voudrais que vous nous expliquiez ce que c'est qu'un rhyton. R-H-Y-T-O-N. Je fais exprès de donner l'orthographe.
Tout à fait, tout à fait. En fait, c'est une forme de vase très particulière. C'est un vase assez petit qui est la reproduction en terre cuite d'un corne à boire. Ce qui est un corne à boire, c'est une forme plutôt qui vient de l'Orient et qui était à la base une forme produite en métal. Et là, nous l'avons en terre cuite avec une partie en forme d'animal. C'était un vase très prisé, surtout, évidemment, dans les Pouilles. Les Pouilles deviennent une terre d'élection. Pour les rhyotons, il y en a beaucoup qui reproduisent des modèles grecs, mais refont aussi d'autres animaux. C'est vraiment une production extraordinaire et qui était très prisée au 19e siècle. Et surtout, alors qu'en Grèce était vraiment utilisée pour boire, dans les Pouilles, c'était plutôt lié à un rituel dionysiaque.
Mmh.
Donc, nous voyons qu'il tient pas un équilibre et il n'est pas fait pour boire.
Donc, il est fait pour quoi?
Il est fait pour... Il avait une fonction exclusivement rituelle.
Décorative.
Tout à fait.
D'accord.
Et décorative aussi, on a dans le mobilier funéraire aussi une importance considérable qui est accordée à cet objet. Donc, c'est pas que décoratif, ça a une signification rituelle liée au culte de Dionysos.
Et c'est très joli. J'ai trouvé que ce sont des petits objets, les amphores sont splendides, mais ces petits objets sont étonnants.
Tout à fait. Ils ont longueur à peu près d'une vingtaine de centimètres et vous avez des formes de béliers, des formes de griffons qui sont extrêmement intéressante.
Oui, oui. Alors, nous passons Un peu vite, mais oui, les auditeurs viendront voir d'eux-mêmes cette belle exposition. Nous arrivons à la section médiévale déjà. Et là aussi, il y a beaucoup, beaucoup à dire. On est du 8e au 13e siècle.
Tout à fait. Là aussi, j'ai choisi un créneau là plutôt large, mais pour montrer à quel point le visage de la région s'est sculpté au cours du Moyen-Âge. Et il y a eu beaucoup d'influence et beaucoup de passages de vraiment de peuples et de présences importantes comme Frédéric de Hohenstaufen. Mais il y a eu avant tout ça les Byzantins, les Lombards, les Souabes, les Normands qui sont venus dans les Pouilles. Et tout ça a créé vraiment un environnement incroyable et fertile du point de vue des influences artistiques.
Exactement.
Et culturelles. Mmh. Mais là, le parcours est centré surtout sur l'architecture.
Et alors, on va parler des cathédrales,
tout
évidemment.
Mais avant de parler des cathédrales, je voudrais dire à quel point, et c'est un point de force de cette exposition, on récupère le patrimoine rural pour montrer à quel point les édifices du haut Moyen-Âge qui sont perdus dans la campagne sont liés aux cathédrales des villes. Et ce travail de la pierre, il se poursuit pour des siècles avec une expérimentation qui commence effectivement là, dans ces édifices que nous, on voit dans les campagnes aujourd'hui. Mais à l'époque, ce n'était pas vraiment la même répartition du territoire. Et évidemment, dans les campagnes, comme il n'y a pas eu la stratification qu'il y en a dans les villes, ces édifices restent conservés et nous permettent d'avoir des informations très importantes et d'avoir aussi des joyaux artistiques.
Absolument. Alors, décrivez-nous un de ces édifices qui sont tout en rondeur. Moi, j'ai senti l'influence byzantine avec ces coupoles. Donc, je voudrais que vous nous en parliez un petit peu.
Tout à fait. J'ai sélectionné une catégorie précise. C'est les édifices à coupoles alignés parce que, en fait, on a un phénomène assez particulier dans les Pouilles. C'est-à-dire, on a des édifices et comme on a une influence byzantine assez importante et donc un culte centralisé. Au début, il y avait des coupole. Et quand on est passé en liturgie plutôt longitudinale, en fait, on a reproposé la coupole, mais de manière modulaire. On l'a reproposée en plusieurs unités sur la nef centrale. Et donc, nous avons des petits édifices qui sont recouverts de coupoles alignées et qui sont très spécifiques. C'est vraiment une catégorie architecturale des Pouilles, là où la pierre était abondante et le bois était plutôt une matière rare. Donc, nous voyons ces églises, ces chapelles qui sont vraiment des joyaux avec leurs coupoles alignées, leurs cycles de fresques très particulier et complètement perdu dans la campagne.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est creusé dans la roche.
Complètement.
Voilà, que ça donne un caractère.
Pour ce qui en est du patrimoine rupestre, c'est creusé dans la roche. Mais là, on parlait de patrimoine rural, et donc effectivement d'édifices qui sont construits et qui sont construits avec de la pierre à sec. Donc la pierre sèche.
C'est une pierre blanche.
Tout à fait, c'est une pierre calcaire, c'est la pierre de la région et qui a cet aspect poreux et vivant et qui dure et qui effectivement
émile l'air. Puisqu'on voit des photos vraiment très très intéressantes, très originales de ces endroits.
Tout à fait.
Et alors un tout petit mot sur les cathédrales, mais vraiment
absolument.
Un tout petit mot parce qu'il faut qu'on avance
absolument
quand même dans l'exposition.
Oui, et effectivement, quand on parle de travail de la pierre et fil directeur de la pierre, au fil des siècles, en fait, on a un travail qui est de plus en plus raffiné avec des cathédrales qui sont somptueuses dans leur dimension, extrêmement imposantes, mais au même temps assez pures. Dans les lignes. Et donc, nous avons des cathédrales vraiment, chaque centre, chaque ville, il voulait son évêque, sa cathédrale, surtout en époque normande. On parle à partir, on va dire, de l'11e siècle, déjà, il y a cette tendance à construire des cathédrales et surtout cette idée, voilà, de créer des chantiers qui mettent en valeur des territoires et des villes. Donc, nous avons Trani, nous avons Barry, Bitonto, oui. Vraiment beaucoup d'édifices.
Alors, justement, puisque vous venez parler de Bitonto, eh bien, on va passer à ce focus que vous faites, hein, sur Bitonto et cette espèce de mosaïque de toutes petites photos. Dites-nous-en un tout petit mot.
Oui. Alors, il s'agit de ma ville. Et je viens de là, mais j'ai eu la possibilité de voir cette œuvre qui est restée gravée dans ma mémoire, parce que cet architecte, en fait, il a superposé à la topographie, à la carte topographique de la ville, des points de vue. Des coins, des arches, des éléments architecturaux qui sont d'une grande beauté, les cadrages ont été pris avec un grand rigueur et tout ça, ça crée un mosaïque assez particulier qui on a décidé dans l'installation d'éclater un peu.
Oui.
Et donc nous avons une salle dédiée à ce mosaïque photo-topographique de Domenico Fioriello auquel je tiens beaucoup.
Ah oui, et ça mérite vraiment qu'on s'y arrête. D'ailleurs, c'est ce que j'ai vu pendant l'exposition, on est devant cette mosaïque, on la contemple et puis on va chercher tous les petits détails et tout ce qui a été mis en relief par cet artiste. Ça, c'est un moment extraordinaire de l'exposition. On est obligé d'aller un petit peu vite.
Oui,
on va se retrouver à la partie contemporaine
très bien.
Dans le jardin. D'ailleurs, le jardin de l'Institut culturel italien, c'est joli comme tout. Rien que pour le jardin.
C'est un petit bijou.
Voilà, ça vaut le déplacement. Et donc, dans ce jardin, il y a un mur à sec qui reprend un peu les constructions architecturales d'antan, on va dire. Donc, les murs de pierre sèche entre les oliviers, construction ancestrale. Et puis, il y a deux plasticiens contemporains. Alors, Francesco Chiavulli, je pense que vous prononcerez mieux que moi, et Lino Civilli.
Oui, tout
voilà.
À fait.
Donc, en 10 secondes, vous pouvez nous parler de leurs sculptures respectives, s'il vous plaît ?
Oui, absolument. J'ai choisi ces deux artistes qui, pour Lino Civilli, il y a dans cette sculpture un métal, un dialogue avec le soleil qui se fait et la lumière, parce que la sculpture est traversée par la lumière et en même temps elle se livre à la lumière même. C'est-à-dire elle mesure le temps avec un cadrage précis. Mmh. Mais en même temps, elle est traversée par le temps avec la rouille. Et donc, cette sculpture est vivante. Par ailleurs, Francesco Schiavulli, il fait une opération assez originale et intéressante en dialoguant avec la terre. Il propose une sculpture qui sélectionne un élément précis de la scène. En mettant en valeur la position des apôtres uniquement par leurs oreilles. Et c'est une œuvre vraiment dans laquelle il a un regard il regarde avec beaucoup d'attention ce qui est fragile et ce qui n'est pas regardé ou vu par tout le monde.
On va s'arrêter là, Francesca. On ne pourra pas parler de vos projets, mais vous reviendrez une autre fois.
Volontiers.
C'était absolument passionnant. Je vous remercie mille fois, Francesca Marocchino, d'être venue jusqu'à nous. Je sais que vous êtes un petit peu pressée, donc je vous laisse repartir. Un grand, grand merci pour tout cet éclairage sur cette exposition que vous avez inaugurée, que vous avez fabriquée, je dirais, et dont vous parlez avec beaucoup de passion. Merci beaucoup,
c'est
Francesca.
C'est moi qui vous remercie de votre intérêt et j'étais ravie d'être là avec vous.
Merci beaucoup. Au revoir.
E se ingiurato
il rosso, e se pigliato la rossa, e con una botta di tossa fatto un figlio con la capa rossa, e con una botta di tossa fatto un figlio con la capa rossa, trapatatatatatatatumba, trapatatatatatumbata, trapatatatatatatatumba, trapatatatatatumbata. Mamma, mamma, mi muoio, figlia mia, cosa tieni nel cuore? Sono tre mesi che sono malata come se fosse una schioppettata. Sono tre mesi che sono malata come se fosse una schioppettata. Trapatatatatatatatumba, trapatatatatatumbata, trapatatatatatatatumba, trapatatatatumbata. Se io non tengo niente, mi mangio la polenta. Mi mangio la polenta, prima m'abbotto e poi m'allento. Mi mangio la polenta, prima m'abbotto e poi m'allento. Trapatatatatatatatumba, trapatatatatatatumbata. Trapatatatatatatatumba, trapatatatatatumbata. L'acqua va al mare, la farina va a molinare. Chi pecora si fa, il lupo se l'ha da magnà. Chi pecora si fa, il lupo se l'ha da magnà. Trapatatatatatatatumba, trapatatatatatumbata. Trapatatatatatatatumba, trapatatatatatumbata. Aspetta ciuccio mio, quando viene la paglia nuova. Hai voglia di arraglià, qua di paglia non ce ne sta. Hai voglia di arraglià, qua di paglia non ce ne sta. Trapatatatatatatatumbo, trapatatatatatumbata. Trapatatatatatumbatumbo, trapatatatatatumbata. I guai della pignata li sa la sua cucchiaia. Beato chi ha da ve e triste chi ha da da. Beato chi ha da ve e triste chi ha da da. Trapatatatatatatatumbo, trapatatatatatatumbata. Trapatatatatatatatatumbo, trapatatatatatatumbata. Quando si zappa e quando si putta, non tengo ziani e non tengo nipoti. Quando è tempo di vendemmia, ziani di qua e nipoti di là. Quando è tempo di vendemmia, ziani di qua e nipoti di là. Trapatatatatatatatatumbo, trapatatatatatatatumbo. La vecchia non vuole morire, il giovane vuole campare. La morte se ne frega chi tocca, tocca la tacchia pa. La morte se ne frega chi tocca, tocca la tacchia pa. Trapatatatatatatatumbo, trapatatatatatatumbata. Trapatatatatatatatumbo, trapatatatatatatumbata. Mamma, mamma, son lunghe le ore, acchiappa le mosche che volano al sole. E se il tempo non vuole passato, pacchia fate rifalle vola. E se il tempo non vuole passato, pacchia fate rifalle vola.
Nous venons d'écouter Rapatatumpa, qui est une chanson énergique de Vinicio Capossela, Canzoni della Cupa. Alors là, nous sommes en pleine Italie profonde. Eh bien, nous sommes toujours sur IDFM 98 pour cette heure entre chien et loup qui nous permet donc d'élargir notre vision du monde, que nous partions au sud de l'Italie, comme nous venons de le faire avec Francesca, ou que nous revenions à côté d'Anguin pour une seconde visite, on va dire un petit peu plus classique quand même, hein, avec les Pouilles, on est allé loin, mais... Elle est aussi cette visite pleine de surprises. Donc Solveig Pijarias, eh bien, je vous dis à nouveau bonjour.
Bonjour.
Et puis maintenant, vous allez nous parler de ce musée dont vous êtes directrice. Alors avant d'être directrice du musée Jean-Jacques Rousseau de Montmorency, eh bien, vous êtes venue de Bordeaux.
Oui, tout à fait.
Et puis vous êtes passée par Toulouse.
Tout à fait.
Où vous avez fait Hippocagne et Cagne, bah, bravo, lettres modernes, histoire de l'art. Et puis ensuite, vous vous êtes lancée dans les gestions, dans la gestion de projets culturels, communication, médiation, à l'Institut National des Études Territoriales.
Alors oui, en fait, j'ai fait l'école du Louvre.
Hein, oui, et vous avez fait l'école du Louvre.
Voilà, principale.
Oui.
Et parallèlement, et par la suite aussi, j'ai fait des formations régulières, car je trouve important de se former tout au long de la vie, à la fois, effectivement, en gestion de projets culturels, en communication, en médiation. Voilà, donc c'était fort intéressant, et ça a complété, effectivement, le parcours
l'école du Louvre. Hein, voilà, où vous faisiez muséologie, médiation, ethnologie.
Tout à fait. C'était vraiment des années formidables, une école très enrichissante. Voilà, de belles années, oui. Effectivement, vécues dans cette école.
Qui ne sont pas loin, hein, Solveig, vraiment.
Ah, ça commence, ça commence.
Alors, vous avez été guide conférencière, assistante, chef de projet culturel. Vous êtes passée par le musée du Quai Branly, le musée de l'Orangerie, le musée du Louvre. Ça m'a amusée, je vais vous dire pourquoi. Depuis 2 ans, vous êtes directrice du musée Jean-Jacques Rousseau à Montmorency. Alors on va dire que ce ne sont pas les mêmes dimensions de musée.
Alors oui, c'est vrai. Après, effectivement, le cœur de métier est le même et c'est celui que j'ai appris à l'école du Louvre, c'est-à-dire travailler sur une collection et quel que soit le projet, c'est-à-dire que ce soit à travers un projet d'exposition, un projet de médiation, un projet de communication. L'idée, c'est vraiment de mettre en valeur une collection, de l'étudier et de la transmettre à des publics, quel que soit le support.
Oui, oui,
et
oui.
C'est ce qui est vraiment passionnant, c'est vrai.
Bien sûr. Alors, dans ce joli endroit, hein, le musée Jean-Jacques Rousseau à Montmorency, il est un peu niché, il faut l'atteindre, il faut marcher un peu sur des rues pentues, on va dire. Mais quand on y arrive, c'est vraiment un petit havre de paix.
Tout à fait.
Oh là là, c'est agréable
oui,
comme tout.
Tout à fait.
Donc, comme on est vraiment à Enghien, juste à côté de Montmorency, j'invite vraiment tous ceux qui nous écoutent, toutes celles qui nous écoutent, à aller se promener dans les pas de Jean-Jacques Rousseau, qui était un sacré promeneur hein, lui-même,
oui.
Et puis d'aller visiter ce joli musée dont vous êtes maintenant la directrice. Alors, quel est votre rôle précis en tant que directrice du musée Jean-Jacques Rousseau?
Alors, le rôle précis est à la fois global, hein,
oui.
C'est-à-dire, eh bien, c'est la gestion du musée, que ce soit en termes de programmation culturelle, en termes de gestion d'équipe. L'idée, c'est d'avoir une vision globale pour faire vivre ce musée. Avec l'équipe, hein, car l'équipe, sans l'équipe, eh bien,
oui, c'est un travail de groupe.
Voilà, c'est vraiment un travail de groupe, effectivement.
Oui.
Et tout ce que l'on fait, on le fait pour les publics. Hein. Il s'agit d'un musée municipal, nous sommes un service public.
Mm-hmm.
Et tout ce que l'on fait, c'est vraiment pour le transmettre au public. Et donc, le musée vit grâce au public qui vient profiter des différents événements que l'on y organise. À la fois, comme je disais, des expositions, des ateliers médiation, il y a des concerts, des conférences. Bientôt, on en parlera, les journées européennes
oui,
du patrimoine.
Bien sûr.
Donc, c'est vraiment un musée vivant.
Oui, bah c'est un mot qui le définit parfaitement. Il reste donc un mois et demi à peu près pour venir visiter les deux expositions temporaires installées depuis le mois d'avril. Donc, il y a certainement eu déjà beaucoup de visiteurs,
oui.
Mais pour ceux qui n'y sont pas encore allés, et on a le temps, on a le temps d'y aller. La première s'intitule « Portrait d'une icône universelle ». Alors, ma première question, c'est pourquoi y a-t-il un S à portrait, évidemment?
Oui, bien sûr. Alors, les portraits en question, il s'agit des portraits de Jean-Jacques Rousseau.
Ouais.
Eh bien, cette exposition porte sur l'image de Jean-Jacques Rousseau, sur l'iconographie de Jean-Jacques Rousseau, comment elle s'est transmise et finalement, est-ce que l'on sait véritablement à quoi ressemblait Jean-Jacques Rousseau puisqu'il existe différents portraits, d'où le S à portrait.
Voilà.
Il y a différents peintres, qui ont réalisé des modèles types et puis, ces modèles types, bien, les copieurs, notamment les graveurs, n'y avaient pas toujours accès. Et donc, l'image de Jean-Jacques Rousseau s'est transmise souvent par le biais de gravures qui étaient plus ou moins réussies, à la fois selon le talent du graveur, mais aussi et parce que le graveur en question n'avait pas forcément accès au modèle de référence. D'où, parfois, des images un petit peu surprenantes de Jean-Jacques Rousseau. On se demande si c'est vraiment Jean-Jacques Rousseau qui est représenté ou pas sur l'image.
Donc ça, c'est vrai que c'est une découverte intéressante. Et puis, ce qui est intéressant dans cette exposition, on va pas tout dire, hein, parce qu'il faut qu'il y ait cette surprise et cette découverte des différentes facettes de Jean-Jacques Rousseau. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment l'image de Jean-Jacques Rousseau a évolué et comment il est presque devenu une sorte de dieu. Enfin, c'est ce qui m'a surprise, hein, vraiment.
Tout à fait. D'où le terme dans le titre, hein, portrait d'une icône universelle. Icône, c'est vraiment dans le sens d'image et d'idole, hein, puisqu'effectivement, Jean-Jacques Rousseau, qui avait été tant décrié de son vivant par ses écrits qui étaient par certains aspects très novateurs hein,
oui,
pour l'époque.
Oui, assez révolutionnaire. Hein,
voilà,
hein,
tout
oui,
à
on
fait.
Peut dire le mot.
il va donc décéder en 1778 à Ermenonville et en 1794, ses cendres vont être transférées au Panthéon. Là, il devient vraiment un des pères de la nation, un modèle à suivre. Mmh. Il va être totalement réhabilité. Et par la suite, eh bien, une iconographie va se développer, celle effectivement d'un Jean-Jacques Rousseau divinisé avec une auréole. Il va également être représenté comme un sage à l'antique. Et donc là, vraiment, l'iconographie de Jean-Jacques Rousseau change du tout au tout. Et par ailleurs, son image se diffuse dans tous les foyers, des plus modestes aux plus fortunés, et ça devient vraiment une icône universelle connue de tous.
Oui, oui. Quand j'ai vu ça et quand nous en avons parlé toutes les deux, ça me faisait penser à la Joconde qu'on trouve partout dans tous les foyers. Donc
oui.
Jean-Jacques Rousseau devient cette figure emblématique du philosophe, éducateur, avec les idées dans le contrat social et Voilà.
C'est... Tout à fait.
Oui, ça. Tout à fait. Et donc cette partie de l'exposition, elle est vraiment très très intéressante. Alors après cette cette première partie de votre exposition, nous sommes chez Jean-Jacques Rousseau. La visite se poursuit par la découverte de sa petite maison. Une petite maison où il a séjourné. Donc, vous allez nous dire combien de temps il a séjourné dans cette petite maison, avec qui et quels sont les objets remarquables, parce que là, il y a une attention à porter sur des endroits que vous avez mis en lumière très, très intéressants.
Alors, Jean-Jacques Rousseau, il s'installe dans cette maison en 1757. Il arrive à Montmorency un an auparavant, en 1756.
Il a quel âge à peu près pour...
Alors, oui, Jean-Jacques Rousseau, alors, il arrive à Paris en 1742, donc il a 30 ans, il est né en 1712, hein, donc voilà. À 30 ans, il arrive à Paris. Et donc, quelques années plus tard, 1756, Montmorency. Mmh. Donc, vous voyez, il a une quarantaine d'années, il arrive un petit peu plus tard. Par la suite, même un peu plus.
Oui,
ou un peu plus.
Oui, que, oui. Oui, il est aux alentours de 50 ans.
Exactement, oui, pardon. Et donc, il arrive à Montmorency en 1756. Là, il est hébergé dans un lieu qui s'appelle l'Ermitage, un lieu qui appartient à Madame d'Épinay, hein, qui est une amie. Et puis, eh bien, ils vont se brouiller. Oui. Et donc, en 1757, Madame d'Épinay va lui suggérer, eh bien, de se trouver un autre logis, ce qu'il fait. C'est pour ça qu'il arrive dans ce lieu que nous appelons le Petit Mont-Louis, qui est l'actuel musée Jean-Jacques Rousseau. Mmh. Et donc là, il s'y installe en 1757 et avec Thérèse Levasseur.
Voilà.
Thérèse Levasseur, qui est une lingère qu'il a rencontrée à Paris, qui est issue d'une condition modeste. Et ils vont avoir une relation très importante. Hein. Ils vont vraiment se suivre tout au long de leur vie. Jean-Jacques Rousseau lui fera une double promesse, celle de ne jamais l'épouser, mais aussi celle de ne jamais l'abandonner. Il ne va en tenir qu'une, hein, parce qu'il va finir par l'épouser. Mmh. Mais ils vont vraiment rester ensemble tout au long de leur vie, avec une relation qui va bien évidemment évoluer. Mais évidemment, Thérèse le suit à Montmorency, et donc ils s'installent tous deux dans cette maison de 1757 à 1762.
Alors, est-ce que c'est là, dans cette maison, que les enfants naissent ?
Alors non, les enfants, c'est une question effectivement voilà, un petit peu importante, hein, mais particulière. Ils vont avoir 5 enfants à Paris, mais ils arrivent à Montmorency sans enfants, car ils vont les placer à l'hospice des enfants trouvés. C'est quelque chose qui va être reproché à Jean-Jacques Rousseau, mais pas tant sur l'acte en lui-même, qui malheureusement est assez récurrent à l'époque. Mais ce qui va lui être reproché, c'est d'écrire ce fameux traité d'éducation pédagogique ou de l'éducation qu'il écrit au Mont-Louis, à Montmorency. Mais effectivement, Jean-Jacques Rousseau va s'en défendre, et il est vrai que c'est un homme de paradoxe, hein. D'un côté,
comme
effectivement, il abandonne ses enfants, mais de l'autre, il va, dans cet écrit, Émile ou de l'éducation, développer des idées tout à fait novatrices sur l'éducation, sur la pédagogie, qui vont être prises jusqu'au XXe siècle, et même XXIe siècle.
Oui, oui, ben, d'ailleurs, on parle beaucoup pédagogie en ce moment, et beaucoup pédagogie innovante, on va dire, hein. Et donc, peut-être qu'il y a quelques idées, bien sûr, à prendre dans les conseils de Jean-Jacques Rousseau. Simplement, ce qu'on peut dire, c'est, juste pour fermer cette parenthèse-là, c'est qu'il a peut-être fait ça pour le bien de ses enfants, finalement, et peut-être pas pour les abandonner. Mais oui, c'est un très, très long sujet de discussion.
On ne le saura jamais. Mais...
On ne le saura jamais.
Comme je dis toujours, on ne peut pas refaire l'histoire.
Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire au moins un mot ou deux sur les objets remarquables dans cette petite maison où il a vécu avec Thérèse Levasseur?
Alors, c'est une maison qui est vraiment à l'image de l'homme, de ses choix de vie modestes. Hein. Il a refusé les honneurs de la cour, une rente royale pour sa liberté d'expression, d'écriture. Et lui, il a choisi...
Et de mouvement, je pense aussi.
Il a vraiment choisi cette vie à Montmorency, dans une maison simple, au cœur de la nature. Car vraiment, Montmorency est toujours une ville très verte, mais elle était déjà à l'époque où il y avait forcément moins de construction au XVIIIe siècle. Et donc, vraiment, il choisit Montmorency pour ce cadre de vie-là, un cadre de vie très vert, verdoyant, avec la forêt de Montmorency juste à côté. Et donc, dans cette maison, eh bien, nous avons du mobilier du XVIIIe siècle, assez simple, mais il y a tout ce qu'il faut, et Jean-Jacques Rousseau, il est très heureux à Montmorency.
Il a ce qu'il lui faut.
Tout ce qu'il désire.
Voilà. Ça lui suffit.
Voilà. C'est du mobilier vraiment très simple, mais c'est tellement charmant, et c'est ce qu'apprécient les visiteurs. Ils ressortent de la visite en se disant, voilà, j'ai visité la maison de Jean-Jacques Rousseau, il y a une âme, hein, vraiment dans cette maison.
Tout à fait.
Donc c'est ça qui est très précieux, de voir où Jean-Jacques Rousseau a écrit ses œuvres majeures, hein. On a parlé de l'Émile aux Éducations, mais il y a également le Contrat social et le best-seller de l'époque, Julie ou la Nouvelle Héloïse, un roman d'amour. Voilà, donc c'est vraiment un lieu très important. Il y a vécu, certes, sur une période très courte, mais très importante en termes
très
de production littéraire.
Oui, oui.
Voilà,
mmh.
voilà. Et par rapport à sa vie personnelle, il y est très heureux.
Alors, voilà, j'invite évidemment tous les auditeurs à venir découvrir cette maison qui a un cachet, vraiment. Et à travers les vitres, les petites fenêtres, eh bien, on voit le jardin.
Oui. Hein.
Donc, ce jardin, il est très joli. Il y a le jardin, il y a le donjon. Certains dimanches, même, le salon de thé. Et là, on est vraiment dans le thème Jean-Jacques Rousseau et la nature.
Tout à fait.
Alors, on va écouter Georges Brassens, qui va nous faire un petit clin d'œil avec son arbre, comme Jean-Jacques Rousseau aurait aimé, je pense.
J'ai plaqué mon chêne comme un saligot, mon copain le chêne, mon alter ego. On était du même bois, un peu rustique, un peu brut, dont on fait n'importe quoi, sauf naturellement les flûtes. J'ai maintenant des frênes, des arbres de Judée, tous de bonnes graines, de hautes futées. Mais toi, tu manques à l'appel, ma vieille branche de campagne, mon seul arbre de Noël, mon mât de cocagne. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux. Je suis un pauvre type, j'aurais plus de joie. J'ai jeté ma pipe, ma vieille pipe en bois, qui avait fumé sans se fâcher, sans jamais brûler la lippe, le tabac de la vache enragée. Dans sa bonne vieille tête de pipe, j'ai les pipes d'écume, ornées de fleurons, de ces pipes qu'on fume en levant le front. Mais je retrouverai plus ma foi dans mon cœur ni sur ma lippe, le goût de ma vieille pipe en bois, sacré nom d'une pipe. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux. Le surnom d'infâme me va comme un gant, d'avec ma femme j'ai foutu le camp. Parce que depuis tant d'années, c'était pas une sinécure de lui voir tout le temps le nez. Au milieu de la figure, je bats la campagne pour dénicher la nouvelle compagne, Valencelle-là. Qui bien sûr laissait beaucoup, trop de pierres dans les lentilles, mais se pendait à mon cou quand je perdais mes billes. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux. J'avais une mansarde pour tout logement, avec des lézardes sur le firmament. Je le savais par cœur depuis, et pour un baiser la course, j'amenais mes belles de nuit faire un tour sur la grande ours. J'habite plus de mansarde, il peut désormais tomber des hallebardes. Je m'en bats l'œil, mais si quelqu'un monte aux cieux, moins que moi j'y paie des prunes. Y a 107 ans qui dit mieux que j'ai pas vu la lune. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux.
Nous étions auprès de mon arbre avec Georges Brassens, et Jean-Jacques Rousseau aurait aimé cette chanson, j'en suis sûre. Alors, Solveig, donc nous étions dans la visite de ce musée Jean-Jacques Rousseau, et vous nous dites qu'il y a un partenariat très important.
Oui, tout à fait. C'est un partenariat avec le domaine de Chaly, qui dépend de l'Institut de France. Et c'est un partenariat mis en place à l'occasion de cette exposition temporaire, mais qui est pérenne, hein, qui va aller au-delà du temps de cette exposition. Il est très simple, c'est-à-dire que les visiteurs qui présentent un ticket acquitté au domaine de Chaly, eh bien, ils présentent ce ticket, eh bien, au musée Jean-Jacques Rousseau.
D'accord.
Et il bénéficie du tarif réduit et inversement.
Très bien.
L'idée, c'est vraiment de mettre en valeur le lien que nous avons avec le domaine de Chaly, qui possède également un important fonds rousseauiste. Les deux lieux sont vraiment très liés. Et nous avons tous les deux, hein, les deux institutions, eh bien, nous avons des collections rousseauistes vraiment très important.
Est-ce que vous pouvez nous dire où se trouve ce domaine?
Oui, il est dans l'Oise, situé à Chaly, non loin d'Ermenonville, où Jean-Jacques Rousseau a été tout d'abord enterré, avant d'être transféré au Panthéon. Et le cénotaphe existe toujours dans le parc Rousseau.
D'accord, donc ça peut être couplé, ces deux expositions, elles vont bien ensemble, se complètent l'une l'autre. Et puis enfin, il y a cette exposition que j'ai beaucoup aimée, moi, en lien avec les rêveries du promeneur solitaire, qui s'intitule « Merveilleuse rêverie » de Michaël Caillou.
Tout à fait.
Voilà, et donc je trouve que c'était joli ce nom, en plus, ce patronyme Caillou, qui, c'est vrai, ça fait rêver, on pense un peu au petit Pousset. Et alors là, c'est depuis le 4 juin jusqu'au 30 octobre, toujours. Oui. Alors, qui est cet artiste contemporain?
Alors, c'est un artiste vraiment fabuleux qui a travaillé pour différentes maisons et sur différents projets, autant Dior, Baccarat. Il a exposé dans différentes galeries à travers le monde, dans différents musées.
Oui, il faut dire que sa spécialité, c'est quand même le bijou.
Oui, alors en fait, oui, il travaille à partir de la gravure, d'où le lien également entre les deux expositions temporaires. Et il réinvente cette technique de la gravure pour créer ce qu'il appelle les fameux bijoux muraux. Donc on est à la frontière entre la joaillerie, la gravure, le dessin. Et il a vraiment un univers très particulier et formidable, à savoir c'est un univers floral, coloré, poétique, qui met en valeur une nature sublimée et qui révèle aussi un message important, à savoir préserver cette beauté, cette biodiversité si précieuse. Voilà. Et donc c'est vraiment un artiste fabuleux qui investit le musée Jean-Jacques Rousseau. Il va présenter un herbier dont il s'inspire de l'herbier de Jean-Jacques Rousseau.
Exactement.
Pour créer son propre herbier.
Oui.
Il investit autant l'intérieur du musée que l'extérieur. Voilà.
Voilà. Il faut dire aussi que c'est un auteur qui a écrit Merveilleuse nature, merveilleuse couleur. Ça le définit parfaitement.
Tout à fait.
Alors, il y a un très joli film qui nous montre donc les œuvres de Michaël Caillou. Et dire aussi que c'est un auteur contemporain. Hein, il est toujours là et qu'il est passionné par les insectes, par les natures mortes.
Oui. Voilà.
Ça fait une espèce d'art nouveau, sa façon de faire. Et moi, j'ai été très sensible à ça parce que c'est joli, ça a l'air d'être tout simple. Et en fait, quand on regarde bien, ben pas du tout.
C'est très méticuleux, oui,
exactement.
Tout à fait. Oui, oui.
Et puis, il mélange, on va dire, plusieurs zones naturelles. Et
c'est
ça
vrai.
A l'air d'être très harmonieux.
Oui, c'est vrai que ça plaît beaucoup, autant aux plus petits qu'aux plus grands. C'est vraiment un art à la fois impressionnant et accessible pour tous les publics. Et d'ailleurs, donc, des animaux se sont échappés de ses œuvres pour investir le jardin et on invite notamment les plus petits à partir à leur découverte.
Voilà, donc maintenant vous allez nous parler des horaires de votre musée Jean-Jacques Rousseau, je me permets de dire votre musée puisque vous en êtes la directrice. Donc quand est-ce que nous pouvons venir nous promener sur les pas de Jean-Jacques Rousseau?
Alors le musée est ouvert du mardi au dimanche de 14h à 18h jusqu'en octobre, donc jusqu'à la fin des expositions, voilà, durant la haute saison.
D'accord.
Voilà.
Alors, est-ce que vous pouvez nous parler des journées patrimoine qui arrivent et que va-t-il s'y passer dans votre musée?
Avec plaisir. Les journées européennes du patrimoine, donc c'est le samedi 17 et dimanche 18 septembre de 14h à 18h. Les visiteurs pourront découvrir gratuitement la maison de Jean-Jacques Rousseau, mais également les deux expositions. Le samedi, il y aura des ateliers d'initiation à la gravure, toujours en lien avec les deux expositions.
Alors ça sera réservé pour quel public? Parce que ça va intéresser beaucoup les jeunes.
Alors on s'adresse à tous les publics, des plus petits aux plus grands, avec différentes techniques justement, plus ou moins difficiles selon l'âge. Voilà.
Oui.
Donc ça permet vraiment à tous les publics de s'initier à cet art.
Ça se passera où? À l'intérieur?
Alors dans le jardin.
Dans le jardin.
Mais nous avons prévu en cas de pluie, il y a des tentes.
Oui.
Voilà, on sera bien abrité. Le jardin reste très agréable. Voilà, même s'il y a un petit peu de pluie, ce n'est pas grave.
Quelles que soient les intempéries.
Voilà. Et le dimanche, il y aura un jeu de piste. Nous avions proposé cela l'année dernière en lien avec l'exposition de l'époque. Ça avait vraiment rencontré un succès. C'est fou. Donc, nous avons renouvelé l'opération en proposant un jeu de piste en lien avec les deux expositions temporaires de cette année. Donc, même les personnes qui ont fait le jeu de piste l'année dernière peuvent revenir cette année. Car
les questions ne seront pas les mêmes.
Exactement. Et des personnalités, des personnages vraiment issus des expositions seront dans le jardin, vraiment des tableaux vivants, pour aider ou pas les visiteurs
Parce qu'il y aura
remplir
des pièges,
une mission, bien sûr, et une mission de haute importance. Le tableau de Jean-Jacques Rousseau a disparu. Il faut absolument le retrouver.
Et oui,
c'est son portrait préféré. Vraiment, il ne faut pas vraiment. Il faut vraiment le retrouver.
Parce qu'on avait, pas dit tout à l'heure au niveau de l'iconographie que Jean-Jacques Rousseau aimait certains portraits qui étaient flatteurs et aimait beaucoup moins ceux qui l'étaient un petit peu moins. On ne dira pas si lesquels étaient les plus ressemblants. On ne le dira pas. Voilà. Alors, donc pour ces journées du patrimoine, ben évidemment, le musée est ouvert et ça sera, je pense, très intéressant. Et pour terminer, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les projets que vous allez inviter au musée Jean-Jacques Rousseau une fois que les deux expositions temporaires seront terminées?
Alors, tout d'abord, avant la fin de l'exposition, il y aura le samedi 29 octobre une rencontre avec Michaël Caillou qui va présenter son dernier livre.
Donc l'artiste dont nous
parlions
tout à l'heure.
Tout à fait. Nous prévoyons cette rencontre dans le cadre du dernier week-end de l'exposition, des deux expositions. Et donc il vient présenter son dernier livre en avant-première, avant même qu'il sorte. Donc vraiment, c'est
et
la toute première présentation.
Comment s'intitule ce livre ?
Luxuriante nature. Nous restons toujours dans le thème de la nature.
Oui, oui.
Voilà.
D'accord.
Et après, les projets vont être assez nombreux. Nous basculons dans la basse saison à partir du mois de novembre où le musée reste ouvert aux mêmes horaires que j'ai indiqués, sauf le dimanche. La seule différence, c'est que nous sommes fermés le dimanche. Mais la maison de Jean-Jacques Rousseau est toujours visitable. Et c'est une autre atmosphère en hiver.
Oui.
Mais c'est aussi
plus intime, peut-être.
Plus intime, oui.
Ça.
Mais c'est toujours tout aussi agréable de visiter cette maison. Et puis, d'autres événements sont à venir dans le cadre de la programmation culturelle 2023-2024, dans le cadre de l'ensemble de la programmation culturelle au niveau de la ville, qui porte, cette année à venir, sur les seigneurs de Montmorency.
Ah, d'accord.
Voilà, donc nous sommes dans une autre thématique, avec une prochaine exposition qui ouvrira ses portes en avril, sur cette thématique des seigneurs de Montmorency.
Nous plongeons dans l'histoire de Montmorency.
Voilà, puisque le musée conserve deux fonds de collection, l'un sur Jean-Jacques Rousseau et le XVIIIe siècle, et l'autre sur l'histoire de la ville de Montmorency.
Très bien. Bon, mais tout ça est tout à fait passionnant. J'aurais voulu aussi qu'on revienne un petit peu sur l'accueil des lycéens, des collégiens, parce que évidemment, c'est pour eux une page de littérature. Mm-hmm. Donc, comment sont accueillis ces tranches d'âge, on va dire?
Alors, nous accueillons tous les scolaires, des plus petits, de la maternelle aux lycéens, même des universités.
Viennent.
Tout à fait. Nous avons même créé une visite spécifiquement pour eux, c'est une nouveauté depuis 2 ans.
Oui, et ils viennent
et ils sont ravis.
Alors, ils viennent avec leurs institutrices.
Avec leurs institutrices, les primaires aussi. Oui. En fait, quel que soit l'âge, nous sommes contactés par les écoles auprès de qui, effectivement, on diffuse les différentes offres culturelles pour les scolaires. Et les institutrices et professeurs s'inscrivent en fonction de ce qu'ils souhaitent faire. Nous avons des ateliers en lien avec la botanique, des ateliers en lien avec la vie quotidienne au XVIIIe siècle, comment on vivait sans électricité, sans eau courante.
Mm-hmm.
Et puis également...
Ça va bientôt arriver. J'espère que tu parenthèse.
et puis également des ateliers en lien avec les deux expositions temporaires. Ça aussi, c'est une nouveauté. Cette année, nous avons travaillé autour de la gravure.
Oui.
Voilà, ce thème de prédilection qui est le lien entre les deux expositions. Et puis, pour les collégiens et les lycéens, nous nous adaptons un petit peu notre discours à la demande parce que parfois, ils étudient un ouvrage en particulier, de même que les universitaires.
Oui.
Donc parfois nous avons des demandes particulières des professeurs et donc il nous est arrivé de sortir un ouvrage des collections pour leur montrer effectivement, alors par exemple Julie ou la Nouvelle et Louise, le contrat social.
Mmh.
Parfois on nous demande vraiment de mettre l'accent par exemple, Julie ou la Nouvelle et Louise est tombée au programme de l'agrégation de lettres 2 fois de suite, donc nous avons eu des étudiants qui sont venus visiter la maison de Jean-Jacques Rousseau et poser des questions à ce sujet.
Oui, donc tout ça, ça fait un panel de visiteurs de tous âges. Les familles sont bien, se promènent dans le jardin. Bon, donc c'est très très intéressant. Solveig Pijarias, je vous remercie beaucoup d'être venu jusqu'à nous parler de ce musée qui est tout proche et qu'il faut aller voir, que ce soit jusqu'au 30 octobre, mais même après, tout au long de l'hiver.
Oui.
Nous sommes à côté et c'est très accueillant.
Merci
beaucoup,
à vous.
Solveig.
Merci.
Donc après ce voyage proche et un petit peu plus éloigné de notre région, je vous retrouverai avec grand plaisir dans un mois. Et là, nous partirons à Giverny. Ce n'est pas encore très très loin. Et puis, nous aurons rendez-vous avec le directeur d'une compagnie qui s'appelle Sena Nostra et qui nous parlera de son immersion. Et vous verrez que cette compagnie fait un travail de proximité tout à fait extraordinaire. D'ici là, je vous souhaite un joli mois de septembre et je vous dis, soyez toujours curieux et prudents. À bientôt.
En Ile-de-France.
En Ile-de-France.
Vous écoutez IDFM, la plus francilienne des radios, sur le 98 FM.